Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI comme chaque jour et avec nos invités que vous allez découvrir d'ici peu, mais avant les sujets du jour. Et pour commencer, eh bien, nous parlerons de cette France à réaction. Malgré un début de rencontre compliqué au Stade de France, eh bien, l'équipe bleu-blanc-rouge a hier remporté son match contre l'Allemagne, comme contre les Pays-Bas, comme contre l'Argentine. Mais à la fin, la France gagne. Les Bleus jouent-ils un jeu dangereux ou misent-ils trop sur leur force, sur leur collectif, sur leur étoile ou sur leurs deux hommes providentiels, Griezmann hier, Mbappé la semaine dernière? Nous essaierons de répondre à cette question. Kylian Mbappé est de retour sur ses terres, a bondi dans sa ville natale et fêté comme une star qu'il est, et avec beaucoup d'humilité, vous l'entendrez. Joachim Löw s'est-il acheté un peu de répit, le sélectionneur de l'Allemagne? Son équipe rajeunie hier soir n'a pas tenu la distance, mais la relève est peut-être déjà installée. Enfin, le Sénégal qualifié pour la prochaine CAN avec deux autres équipes africaines présentes en Russie. Ce qu'on peut dire, c'est que les mondialistes, eh bien, semblent plutôt en bonne voie. Les cinq équipes qui étaient à la Coupe du Monde seront vraisemblablement présente aussi à la CAN 2019. Et pour évoquer ces sujets, d'abord honneur à une femme, Cindy Colmarès, bonjour.
Bonjour, ravie d'être parmi vous.
Merci, notre collègue et consoeur vénézuélienne. Il y a aussi Hervé Penaud en face, notre confrère de l'équipe, bonjour.
Ah bonjour, et puis il est très heureux de faire cette émission.
Hein, hein. Et de faire la connaissance de Cindy. Donc.
Et de faire la connaissance de Cindy, absolument, que je ne connaissais pas.
Bah, il y aura aussi peut-être notre...
Bah, je connaissais lui.
Notre collègue, lui, sénégalais.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il connaissait peut-être facilement.
Bonjour Cindy.
Antoine Grenier, tout le monde vous connaît. Bonjour.
Presque tout le monde. Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti. Et Antoine, on vous retrouve eh bien, au Stade de France. Écoutez.
On réclame une petite main de Kimpembe. Est-ce qu'il a sifflé un pénalty, l'arbitre, il me semble, oui, qu'il a sifflé pénalty.
Je vous le confirme.
Il a sifflé pénalty en faveur de l'équipe d'Allemagne sur cette main de Presnel Kimpembe. C'est Toni Kroos, le joueur du Real Madrid, qui va se charger de frapper ce pénalty face à Hugo Lloris. C'est parti, il va frapper du pied droit à Toni Kroos et c'est dedans. Attention à Lucas Hernandez qui va centrer. C'est l'égalisation. L'égalisation française, elle est signée Antoine Griezmann sur ce centre signé de Lucas Hernandez. L'équipe de France revient contre le cours du jeu. Penalty pour l'équipe de France pour cette faute de Mats Hummels sur Blaise Matuidi. Allez, son pied gauche et c'est parti à nouveau à terre. C'est dedans. C'est dedans. Manuel Neuer est pris à contre-pied. Antoine Griezmann inscrit son 26e but en bleu. Un but qui permet aux Français de mener 2-1.
Et oui, Antoine Grenier, vous le racontiez hier soir sur notre antenne, dans la difficulté, avec un nouveau retour au score, eh bien, les Français ont finalement remporté ce match contre l'Allemagne et continuent sur leur lancée, eh bien, commencée avant l'été, commencée en vue de la Coupe du Monde. Un petit tweet, cependant, a entraîné depuis hier soir un vif débat. C'est celui de Gary Lineker, l'ancien buteur, notamment de l'équipe d'Angleterre et aujourd'hui très fin observateur du monde sportif et du monde footballistique. Il a écrit à la fin du match « France is a new Germany », la France est une nouvelle Allemagne. Alors évidemment, c'est en écho à ce qu'il avait déclaré en 1990 lorsqu'il avait dit « et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne ». La question est aujourd'hui, la France est-elle une nouvelle Allemagne? Hervé.
Eh ben,
Antoine, vous voulez
commencer? Hervé.
Bah, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, effectivement. Et que ça vienne de Lineker, d'un Anglais magnifique. Et qui voyait toujours l'Allemagne gagner. Mais tant c'est la France. Ça paraît assez invraisemblable, assez incroyable. Mais c'est vrai qu'on a une équipe de France qui est à réaction et une équipe de France qui est pas dépourvue de chance. Et puis de coups de pouce arbitral, je veux dire. Parce que il y avait pas pénalty sur le deuxième but.
Et sur le premier.
Le premier, c'est discutable. C'est-à-dire que moi, à mon avis, avec le deuxième, pour moi, il est indiscutable. C'est-à-dire que s'il y a une vidéo, s'il y a le VAR, le fameux VAR, si on revisionne, on ne peut pas donner le deuxième pénalty. Le premier, alors c'est toujours à l'interprétation de l'arbitre. Moi, je ne suis pas spécialement pour non plus, hein, qu'il y ait pénalty sur cette action-là. Mais enfin, tout paraît aller dans le sens de l'équipe de France. Rappelons-nous quand même le match contre l'Islande. Vous avez un CSC, but contre Zoncan, à 5 minutes de la fin. Le pénalty après de Mbappé, sur une main aussi qui existe, hein, là il n'y a aucun doute. Mais il n'empêche qu'il n'y avait pas d'utilité spécialement de faire cette main-là. Donc on a l'impression que tout va dans le sens de l'équipe de France. Et force est de constater quand même que c'est une équipe qui a quand même un état d'esprit, un mental hors norme. Parce qu'il faut être capable quand même d'être mené comme ça. Et après de pouvoir revenir et puis reprendre l'avantage.
Yoro.
Il y a une différence entre l'équipe de France de 2014, 2016, 2018. Et celle de 98. Celle de 98, c'était plutôt un rouleau compresseur qui marchait sur ses adversaires, qui était beaucoup plus forte.
Après son titre.
En 2000, exactement.
L'équipe de 2000.
L'équipe de 2000. Ouais. Mais celle-là d'aujourd'hui, elle a un coup de pouce, un coup de chance. Déjà en 2006, en 2016, lors de la demi-finale de l'Euro, la demi-finale s'est jouée à Marseille. Ils avaient tellement souffert avant de gagner, mais ils ont réussi quand même à aller en finale. N'eût été cette frappe de Gignac, peut-être qu'ils auraient pu remporter l'Euro. Et puis ils sont revenus à la Coupe du Monde avec toujours ce coup de pouce, cette chance, et puis cette chance que n'ont pas forcément ses adversaires. Hier, l'Allemagne aurait pu faire plier le match en première mi-temps, ils ont raté les occasions qu'ils avaient, malheureusement pour eux, et à ce coup de chance qui suit Didier Deschamps, qui suit cette équipe nationale de la France, peut-être que ça va continuer avec l'Euro, etc., mais quand même, il faut reconnaître que dans cette équipe, il y a d'excellents joueurs de football.
Bah oui. Ah.
Cindy.
Après, pour moi, je suis d'accord avec les journalistes anglais, mais pour moi, cette équipe de France, c'est toujours France, ils la gagnent, parce que cette équipe ressemble de plus en plus finalement à Didier Deschamps. C'est une équipe assez pragmatique, en fait, ce qu'ils veulent, c'est de gagner les résultats avant tout, quitte à se mettre parfois en péril, et comme on dit, qui joue avec le feu, bah, finit par se brûler. Donc c'est ce qui risque d'arriver aussi, parce que la France, au bout d'un moment, même s'ils sont mondialistes, au bout d'un moment, ils vont finir aussi pas perdre, ça va leur arriver, même si ça fait quand même 15 matchs où ils n'ont pas perdu. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont perdu, c'était contre la Colombie et c'était en préparation avant la Coupe du Monde.
C'était pas le Venezuela, c'était la Colombie.
J'ai dit avec autant d'émotion, on y voit ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un travail très très important au niveau de ce qui est l'orientation, au niveau du résultat. Du côté de Joachim Löw, il dit que c'est une équipe, enfin, qu'ils étaient les meilleurs sur les terrains, parce que c'est vrai que pendant la première mi-temps, ils s'étaient...
Ah ben, ils menaient 1-0 pendant assez longtemps.
Oui, oui, ils ont été assez costauds. Là où je trouve l'équipe de France quand même assez exceptionnelle, c'est justement ce que vous disiez, du coup, Hervé. C'est ces mentales-là, parce que je pense que tous, quand on était en train de regarder ces matchs en tant que spectateurs, au bout d'un moment, on était paniqués, on se disait, mais c'est qu'ils vont perdre. Et eux, les joueurs, ils semblaient pas paniqués, en fait. Ils semblaient bien dans leur tête, en se disant, bon, on va réussir à remonter tout ça.
Antoine.
C'est incontestablement une équipe de France qui est sûre de sa force, qui a confiance dans ses capacités et qui est capable finalement, comme on l'a vu hier, de jouer un demi-match. Parce que en première mi-temps, il n'y a pas grand-chose. Enfin, ils concèdent 5 corners, ils n'en ont pas un seul. Ils n'ont aucun tir cadré en première période, les Français. Et puis, il y a ce retour en seconde période. Alors, est-ce que c'est les mots de Didier Deschamps? Est-ce qu'il a ce poids-là?
Le réajustement, un petit peu. Vous pensez à l'Allemagne des années. On se souvient de ces matchs avec Platini, quand la France avait l'air d'avoir le meilleur jeu. On se souvient de ce fameux match de 80. Mais il y a aussi 86, et puis finalement se faisait coiffer sur le poteau par l'Allemagne qui inévitablement l'emportait.
Mais là, l'Allemagne, elle est complètement différente, c'est une équipe, et c'est justement
non,
ce qu'on critique.
On pense à l'Allemagne des années 80, justement, oui. Celle qui gagnait toujours.
C'est à peu près les mêmes ressorts, c'est une confiance, une capacité à rester solide, à rester mentalement dans un match. Les Allemands l'avaient montré en 82 en se retrouvant menés 3-1 par cette équipe, par l'équipe de France, hein. J'étais pas né, donc je parle je
moi
non pas
plus.
De mémoire.
Et pour
finir par s'imposer face à des Français qui jouaient objectivement mieux. Effectivement, cette équipe de France qui joue peut-être moins bien qu'un certain nombre de ses adversaires
demandés
aux Belges,
mais les Français,
qui gagnent,
hein.
c'est assez impressionnant.
Et justement, on va l'entendre, Antoine Grenier, notre ami Didier Deschamps, il était à votre micro, et justement, il parle de cette confiance. Pour lui, c'est sans doute la clé, effectivement, de ce qui fait fonctionner l'équipe de France.
La force, elle est là. Évidemment, c'est la différence aujourd'hui qu'on peut avoir entre une équipe comme l'équipe de France qui est en pleine confiance et qui dit confiance amène réussite, et une équipe allemande qui a moins de confiance, qui a moins d'efficacité aussi. Mais y a rien de mieux. Hein. La meilleure vitamine pour un groupe, pour les joueurs, c'est des victoires. Ça donne encore plus de force, même si ce groupe en a déjà beaucoup.
Voilà, la confiance, source de tout, la confiance en la gagne. Mais est-ce que finalement, elle va pas écœurer ses adversaires aussi, cette équipe de France? On a entendu Joachim Löw hier un peu fumasse à la fin du match, parce que ces joueurs, n'est-ce pas, Antoine, ils n'avaient pas tenu la distance, et bon, puis ils contestaient le pénalty.
Oui, et Joachim Löw, qui est pourtant un entraîneur qui en a vu d'autres, hein, et qui sait ce que c'est que de perdre, là, pour le coup, on sentait vraiment, ça lui reste en travers de la gorge, que ce soit les décisions arbitrales ou le fait de voir son équipe ben justement s'incliner, je le disais, contre une formation française qui aura joué une seule mi-temps.
Yoro.
Oui, sur le match d'hier, on a vu la même équipe de France, même en Coupe du Monde, c'est pas une équipe qui était là, joueuse, mais moi je ne retiens que les trois points, Annie, c'est le plus important.
Les gens, ils essaient, je suis dédié des choses.
Ils essaient après de dire, oui, on a joué, on chouine un petit peu, parce que c'est la France. Moi, ce que je comprends pas des fois dans la presse française, c'est qu'on est tellement, on a tellement envie de magnifier les autres qu'on s'oublie soi-même. Quand c'est l'Italie qui le fait, c'est oui, le pragmatisme italien. Quand c'est l'Espagne qui joue, ah oui, on va jouer demain contre des joueurs qui savent manier le ballon. Nous, on sait peut-être pas manier le ballon, mais être efficace quand même. Demain, si on me dit entre manier le ballon et être efficace, je choisirai l'efficacité. Le reste, c'est pas important. Si c'est les Italiens qui le font, on va applaudir. Oui, c'est la rigueur tactique. Oui, ils sont intelligents. Oui, c'est machin. Mais ils savent pas reconnaître, eux, leurs valeurs. Moi, ça me gêne.
Parce que nous sommes râleurs, en fait. Ouais,
c'est
on est censés être râleurs, les Français.
Mais Hervé, est-ce que finalement cette équipe de France, elle se fait peur, elle joue avec le feu? Est-ce qu'elle a vraiment des lacunes? Est-ce qu'elle n'est pas assez concentrée en début de match? Où verriez-vous l'explication?
Il y a certainement
parce que
des
la
lacunes.
Confiance, elle met du temps à arriver quand même sur le terrain, si elle est dans les têtes, sur le terrain, balle au pied.
Oui, mais il y a une forme de certitude dans le jeu français qui fait qu'à un moment, certains joueurs font pas toujours les efforts nécessaires. Alors je pense un peu à certains attaquants qui travaillent pas toujours comme il le faudrait, mais dès qu'il a fallu enclencher, voilà exactement, et dès qu'il a fallu enclencher quelque chose de positif, et ben ça y est, d'un seul coup, on a vu un Kylian Mbappé avoir une autre attitude en deuxième période, etc., etc. Donc on sent quand même que c'est une équipe qui a un potentiel énorme. Alors la difficulté pour Deschamps aujourd'hui, c'est qu'on lui dit tellement il faut que ce soit plus offensif qu'à un moment il se dit il va falloir que je switch un petit peu, mais tant que j'aille vers une attaque un peu plus flamboyante. Et le problème, c'est qu'il faut trouver cet équilibre là et finalement l'équilibre il l'a trouvé avec ses grognards, avec Matuidi par exemple, mais il faut quand même noter aussi que lui-même a changé les systèmes tactiques pendant le match, et c'est ce qui a aussi permis à l'équipe de France de revenir à mon avis un petit peu meilleur, parce que le système c'est quand même capital aussi, parce qu'on dit souvent on peut changer le système n'importe comment, c'est vrai qu'il n'y a pas que le système, l'animation est importante, mais le système est quand même important.
Antoine,
moi Deschamps finalement ce qu'on lui reprocherait presque c'est de refuser cette poésie de la défaite qu'il y avait en France jusqu'en 98.
Pour ce coup c'est pas poète, hein.
C'est pas grave si on gagne en étant absolument moche, bah, ça lui va. Après il faut voir aussi que cette équipe de France est encore relativement perfectible. On a vu hier qu'il y avait
parce qu'elle est jeune.
Pas seulement parce qu'elle est jeune, parce que finalement la formule magique qui permettrait d'être à la fois hyper solide défensivement et efficace offensivement, Deschamps l'a pas encore réellement trouvé. Quand les Bleus ont gagné les matchs où ils ont été les meilleurs en attaque, c'est contre l'Argentine et contre la Croatie, ils prennent respectivement 3 et 2 buts pendant la Coupe du Monde,
c'est vrai qu'à un moment on voit le mal partout, c'est-à-dire que quand ils mettent des buts on dit bah ils en encaissent, et quand ils en encaissent pas, dit bah ouais, mais enfin ils sont pas très offensifs.
C'est ce qu'il a mis en cause, hein.
Non mais sur le fond il a tout à fait raison, c'est-à-dire que là on parle quand même d'une équipe qui a fait finale de l'Euro. Ça s'est joué à un tir de Gignac sur le poteau. Bon, il pouvait gagner l'Euro. Gagner la Coupe du Monde. Vous n'avez pas éliminé n'importe qui. Vous avez battu les Belges, vous avez battu la Croatie, qui était équipe surprise. Vous battez l'Argentine, l'Uruguay, etc. Donc vous battez quand même des grosses équipes. Vous entrez dans la Ligue des Nations. Ligue des Nations, vous battez tout le monde, quasiment. Vous battez l'Allemagne là. Vous avez battu les Pays-Bas, qui ont battu eux-mêmes les Allemands. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même laisser un peu de crédit aux joueurs qui ont réussi ça, sans se dire, ah bah oui, mais ils ont tout à faire encore mieux. Ah bah on peut toujours faire mieux.
Alors justement, Griezmann a marqué deux buts hier, hein, c'est lui, pratiquement c'était Mbappé qui a marqué les deux autres buts contre l'Allemagne, contre l'Islande, parce que même si c'était un but contre son camp, mais c'est lui qui tire très fort. Est-ce que elle s'en remet trop à ces deux hommes providentiels, Cindy?
Bah ils ont pas tort de les faire en tout cas, parce que oui, quitte à voilà. En tout cas, Griezmann a appliqué les mêmes tarifs que pendant l'Euro 2016. Je sais pas si vous vous souvenez, mon demi-finale contre l'Allemagne, c'est un peu similaire les scénarios.
Il avait mis deux buts à Neuer.
Exactement. Et là, cette fois, il s'est avéré aussi quelqu'un qui est pas mal niveau défensif, puisqu'il a gagné 4 duels sur 7. On va dire que Matuidi, il a fait à peu près la même. Et si on va parler de quelqu'un qui a fait mieux défensivement, du coup, il faut aller voir du côté des Balan et des Kanté. Enfin, faut voir à quel point, quand même, c'est un joueur qui est en train de briller en ce moment en équipe de France. Peut-être sûrement motivé par cette histoire des ballons d'or, de laquelle on parle énormément en France de façon presque obsessionnelle comparée aux années précédentes. Mais c'est tout à fait normal. Donc du coup, je pense que oui, Didier Deschamps fait les bons choix, continue à les faire, même s'il nous met tous en panique, en tout cas dans la première période. Je pense qu'il n'est pas infaillible. Au bout d'un moment, l'équipe de France va finir par tomber à cause de ces choses-là. Mais oui, c'est une équipe qui se montre quand même assez forte.
Yoro, trop confiance en Mbappé et Griezmann?
Mais quand on a deux joueurs de de ce talent, Annie, on ne peut faire confiance aux coups d'eux, parce qu'ils sont déjà complémentaires.
Ils commencent à l'être.
Ils sont très complémentaires parce que Griezmann, il peut décrocher, jouer au milieu, aider déjà à la récupération du ballon et se projeter très vite en attaque. Ce que Mbappé fait rarement parce que peut-être qu'il est beaucoup plus explosif. Et aussi, Griezmann, il est certes de petite taille, mais il marque beaucoup de buts de la tête parce qu'il a un bon timing.
C'est Yoro, il dit ça parce qu'il mesure 1m95.
Exactement.
Mais d'ailleurs aussi, je crois.
Non, et d'ailleurs, la première accélération lors du match qui était quand même époustouflante, c'est sur une passe des Giroud. C'était Mbappé qui l'a fait. Donc oui, je pense que tous les deux, ils sont assez complémentaires. Si ça n'avait pas été Griezmann qui aurait marqué, ça aurait été certainement
Mbappé. Et en plus, il y a un truc qui me fait quand même sourire dans l'affaire. On dit, Mbappé, Griezmann. Enfin, quand il y a le Real Madrid, il y a Ronaldo. Quand vous avez Barcelone, c'est Messi. À moins, évidemment, que les grandes équipes s'en remettent à leurs grands joueurs. Mais c'est l'histoire du football.
Et ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'on veuille créer une rivalité entre les deux. Oui, ils passent tous les deux au Ballon d'Or. Ils ne vont pas se faire la passe. Si c'était le cas hier... Moi, je pense pas que Mbappé va lui dire demain, je vais aussi marquer, quoi.
Mais je pense qu'il y a une obsession chez les deux de le Ballon d'Or. Oui. Qui, comme je ça pense que ni l'un ni l'autre ne l'aura, donc ça, c'est déjà peut-être une chance.
Non, mais c'est parce que vous pensez que les votes vont être partagés parce que tous les Français vont un peu se diviser. Mais oui, on les craint tous. Mais après, je pense que ça, enfin, moi, j'y crois.
Ils sont très
intelligents. J'espère l'un des deux. Mais ça veut dire que celui qui l'aura, l'autre, il va le voir d'un drôle d'œil. Parce que mine de rien,
ça sera un travail de Deschamps.
Et on parle pas de Pogba, qui veut aussi voir ça avec.
Alors lui,
il faut mieux qu'on en parle pas aujourd'hui parce qu'on parle pas non plus des valeurs.
Tout le monde l'a très mal noté. Varane est bien noté, mais Pogba est mal noté.
Je partage pas forcément l'angélisme qui a l'air de régner sur ce plateau par rapport aux performances de Griezmann et de Mbappé. Pour l'instant, c'est simplement leur performance qui masque un peu la forêt d'Olivier Giroud qui met pas un pied devant l'autre.
Il a marqué contre les Pays-Bas.
Il a fait un excellent travail pendant la Coupe du Monde en tant que pivot. Il a fait un excellent travail hier avec des remises qui étaient assez intéressantes. Il ne marque pas.
C'est pas grave.
C'est pas grave tant que Griezmann et Mbappé marquent. Le jour où il marque plus,
il y a pas Giroud, il n'y
a pas
Giroud, il
n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Lemar, il n'y a pas de joueurs derrière ces joueurs-là qui puissent assumer réellement, qui puissent porter l'attaque française.
Mais c'est pas grave, il y a eu Varane qui a mis des buts, il y a eu Titi qui avait marqué un but de la tête.
C'est le monde à l'inverse.
Il n'y a pas d'obligation que ce soit le numéro 9 qui marque, ce serait pourquoi pas mieux pour lui, surtout pour lui. Parce que pour l'équipe de France, c'est pas grave.
Oui, parce que c'était clairement une période très noire.
Mais pour l'équipe de France, ça change rien qu'il marque ou qu'il marque pas, puisque l'équipe gagne.
En tout cas, Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non, c'est la star. Évidemment qu'on l'a tellement vu pendant la Coupe du Monde et on continue à le voir. Grégoire Sauvage, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous accueille dans Radio Foot aujourd'hui parce que Kylian Mbappé a été fêté, on va dire, comme un roi en son royaume aujourd'hui. Le jeune attaquant est allé à Bondy rendre visite, la ville donc où il est né, la ville qu'il a vu naître aussi au football. Écoutons un petit peu une ambiance de ce qu'était Bondy tout à l'heure quand vous y étiez.
Ah,
Alors Grégoire, il y avait vraisemblablement beaucoup de monde dans cette ville, ouais. Beaucoup de monde pour recevoir Kylian.
Ouais, c'était une très belle ambiance très familiale. C'est vrai, ce qui est fou avec Mbappé, c'est que à la fois il plaît aux mamans qui adorent son côté gendre idéal, bon garçon, bonne éducation, et puis en même temps les enfants hein, qui adorent eux ses passements de jambes, les buts. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants complètement surexcités. Il faut savoir que Bondy, c'est une ville très jeune, hein, puisque 40% de la population de la ville a moins de 30 ans. Alors évidemment, c'est important. Kylian Mbappé, c'est une fierté, hein, c'est un modèle. Il est arrivé aux alentours de 14h au stade Léo Lagrange. C'est dans ce stade où il a réalisé ses premiers dribbles et ses premières accélérations. Il a commencé par saluer les poussins de l'AS Bondy, faire des photos, hein, signer des autographes. Alors on s'attendait à ce qu'il y ait quelques passes entre la star du PSG et puis les jeunes de l'AS Bondy. Bon, finalement, ça
n'a
pas
été
le cas.
Il n'a pas mis ses crampons ?
Non, il n'a pas mis ses crampons. Il est resté avec sa casquette, frappé de ses initiales. Très sobre.
Alors justement, on va l'entendre, Kylian Mbappé, rentrer et être ovationné et dire quelques mots.
Ça fabrique des mecs à part, ça fabrique des Mbappé.
Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Mbappé, Kylian Mbappé.
C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous voir tous ici m'accueillir. Vous savez pas à quel point je suis heureux de vous voir. Je suis plus heureux moi que vous.
Voilà, il était tout humble quand même, ce Kylian Mbappé qui dit « Si vous êtes heureux d'être ici, moi je le suis encore plus que vous ». C'est quand même, c'est le personnage qu'on voit quand une sincérité un peu presque enfantine dans ces cas-là.
Ouais, complètement. Il était vraiment, vraiment ému, hein. Sincèrement. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville. Il est monté sur scène. Il faut dire que la municipalité avait vu les choses en grand avec DJ set, un dispositif de sécurité assez impressionnant, et puis des écrans géant pour que tout le monde puisse voir le joueur de l'équipe de France.
Il ne devait pas y avoir école aujourd'hui là-bas. En tout cas, Madame le maire, c'était le maire mais pas sa mère, la maire donc de la ville qui s'appelle Sylviane Thomassin, vous l'avez rencontrée et elle parle de l'importance qu'a Kylian Mbappé désormais à Bondy.
Les jeunes de Bondy disent, on ne sera pas tous des Kylian Mbappé, mais on peut tous réussir notre vie et notre carrière. Et je trouve que c'est très juste. Donc voilà, il représente la fierté, tous ces jeunes dont on parle jamais dans nos villes, on parle toujours, comme les Finkielkraut, Zemmour, Le Pen, des quelques-uns qui nous prennent beaucoup d'énergie et qui font des bêtises, mais on ne parle jamais des 200 à peu près sur une ville comme Bondy, qui réussissent leurs études, qui ont une vie familiale solide, qui créent leur entreprise, tout ça on n'en parle jamais, Kylian permet qu'on mette la lumière sur eux.
Est-ce qu'il y a un effet Kylian sur Bondy ?
Invraisemblablement. Vous verrez, en discutant avec les jeunes autour de vous, ils sont tous très très fiers. Justement parce qu'il semble que pour une fois, on parle en positif de la ville et que pour une fois, ils sont dans la lumière. En fait, ils se trouvent dans la lumière grâce à Kylian. Et cette fierté-là, je pense qu'elle va être semée et poussée très longtemps dans cette ville.
Bon, ils sont venus dans la lumière un jour, en plus, ensoleillé, à Bondy. C'était surtout des élèves des écoles, c'était des jeunes, c'était des gens qui travaillaient et qui avaient pris une heure pour venir le voir.
Ouais, essentiellement des parents avec leurs enfants.
Entre midi et deux. Hein.
Oui, voilà, autour d'une dizaine d'années, hein, en général. Il y avait quelques ados aussi, il faut dire qu'on est mercredi, hein, donc forcément...
Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas école. Ben justement, la mère, elle vous dit, allez discuter avec les jeunes. Eh ben, vous y êtes allés et voilà ce qu'ils ont dit.
Moi je m'appelle Lies et j'ai 10 ans. Je m'appelle Amine et j'ai 10 ans. Je m'appelle Safia et j'ai 9 ans. Bah normalement je le vois que à la télé. Mais là dès que je le vois maintenant, donc il y a une sensation quoi. Ce que je trouve bien de chez lui, c'est la fidélité et son courage quoi.
Qui va gagner le Ballon d'Or cette année ?
Mbappé. Mbappé c'est sûr. Mbappé c'est sûr.
Oudaifi, 12 ans et j'habite à Bondy. Ariel, 14 ans et j'habite à Bondy. Surpris parce que je l'ai jamais vu en réalité que dans la télé. Moi je l'aime bien, c'est un mec qui parle pas beaucoup mais il joue bien. Moi j'aime bien ses passements de jambes et tout, surtout pendant la Coupe du Monde, comment il a dribblé les joueurs et tout, après il a marqué, ça m'a inspiré en fait.
La fierté et l'admiration des habitants de Bondy. Il est resté combien de temps finalement Mbappé au stade Léo Lagrange ?
Bon, je dirais il est resté environ une heure et demie. Une heure et demie, ouais, ouais. D'abord, il est allé voir les poussins, puis ensuite, il est monté sur scène, où ça dure environ une heure et demie. Après, il était attendu au PSG, il a dû partir.
Eh oui, il s'entraîne quand même.
Mais il bosse. Faut bosser.
Voilà. Mais, effectivement, la fête continuait, il y avait encore des concerts.
Oui, il y avait des concerts, DJ set, là. Ouais, c'était vraiment la fête au village, vraiment une fête de village.
Bon, ben voilà, c'était à Bondy. Merci beaucoup, Grégoire Sauvage.
Merci, Annie.
De nous avoir raconté ça. Cindy, vous qui venez de si loin, est-ce que la réputation de Kylian Mbappé est arrivée du côté du Venezuela?
Oui, celle de Mbappé et également celle du Gringuito. On l'appelle les Gringuito Griezmann au Venezuela. Mais oui, parce que vous le savez, Annie, en Amérique du Sud, toutes les personnes qui sont blanches, à la peau claire et puis avec les cheveux clairs, on les appelle les Gringos. Et donc, du coup, oui, on est vraiment en admiration. On s'est dit que c'est vraiment une chance d'avoir un Français aussi brillant. Les gens sont émerveillés en Amérique du Sud, puis même au Venezuela, qui n'est pas forcément un pays de foot, mais qui regarde, du coup, qui vit le foot à travers les autres pays. Et on est époustouflé par les capacités de ces jeunes joueurs qui deviendra très bientôt une star.
Yoro.
Bondy a bien dit, qu'est-ce qu'il faut rajouter, sinon que c'est une étoile hein, qui brille partout au Sénégal, partout. Tout le monde adore ce joueur-là parce que déjà c'est
géorgien. Est-ce que c'est grâce à la Coupe du Monde?
C'est grâce à la Coupe du Monde et ce qu'il fait également en club, parce que ce garçon, il est phénoménal. Devant la presse, que ce soit sur le terrain, que ce soit avec ses amis de Bondy, comme il l'a dit tout de suite, c'est tout à fait honorable pour un garçon de 19 ans, c'est magnifique pour lui.
Et il y a une chose, je trouve...
Antoine avait pris la parole.
Juste pour dire aussi au-delà de son simple talent de joueur, Kylian Mbappé, on l'a vu, il a aussi ce côté dont parlait Grégoire de gendre idéal, mais il montre aussi sur le terrain qu'il peut avoir du caractère. Il l'avait montré avec cette expulsion contre Nîmes, que c'est quelqu'un qui a beau avoir tout le talent du monde, qui se laissera pas faire si jamais le ton monte un petit peu. Bref, il réunit un petit peu toutes les qualités qu'on aimerait avoir quand on est enfant, c'est-à-dire avoir du talent et avoir un sacré caractère.
C'est bien de me définir comme ça, c'est sympa de me définir comme ça.
C'est certainement ça aussi qui joue dans cette popularité incroyable, et en plus de sa maturité, en plus du fait qu'il parle bien, bref, c'est un garçon qui a toutes les qualités et qui m'énerve un peu.
C'est un peu amusant, c'est quand vous dites qu'il ne se laisserait pas faire, parce que l'autre jour, là, quand il est tombé sous le banc fauché par un Islandais, alors c'est les autres qui se sont levés pour le défendre pour le coup, hein, donc finalement, il fédère autour de lui. Et vous, il vous énerve un peu aussi, Hervé?
Non, parce que bon, les gens comme moi, j'aime bien, de toute façon. Attends, c'est pour rire. Non, il m'énerve pas, loin de là. Mais d'abord, son principal talent, il est footballistique. S'il est la star qu'il est, c'est par son football. Et c'est là où je le mettrais pas
gestes,
du tout.
Buts,
je le mettrais pas au même niveau Griezmann, malheureusement pour Griezmann. J'adore Griezmann, c'est un super joueur. Mais Griezmann, c'est un joueur de football. Et... Kylian Mbappé, avant un match, on se dit j'ai envie de voir Kylian Mbappé. Moi, avant le match France-Allemagne, je me dis pas tiens comment va être Griezmann. J'espère qu'il va faire un bon match. Je sais ce qu'il est capable de faire.
Griezmann.
Et même si ou Giroud ou tous les autres, ils sont des très bons joueurs, il y a aucun souci. En revanche, on se dit mais qu'est-ce qui va nous sortir encore ce soir? Et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui sont au Stade de France contre l'Allemagne pour se dire. Et il va nous faire quoi? Et dès qu'ils ont vu la première accélération côté droit, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est encore ce truc? Et il est parti comme une bombe, il marque pas de but, et au final, les deux qui vont être encensés, c'est bien sûr Griezmann, parce qu'il a mis ses deux buts, il n'y a absolument rien à dire, mais c'est encore quelques gestes, quelques fulgurances, quelques éclairs de Kylian Mbappé. Qui font le spectacle, et on se dit, on a envie de voir Kylian Mbappé, on a envie de voir Messi, on a envie de voir Ronaldo. Je pense qu'aujourd'hui, et Neymar. Parce que Neymar aussi est capable de sortir des gestes venus d'ailleurs.
Ça se compte sur les doigts d'une main, les joueurs comme ça.
Oui, mais la différence, c'est que oui, ils sont extraordinaires au niveau de leur talent footballistique, mais Mbappé ressort toujours par ses qualités humaines, et je pouvais le dire parce que au côté Amérique du Sud, vous aviez des joueurs français assez extraordinaires et qui étaient perçus chez nous comme un peu arrogants. En fait, on n'accrochait pas. On savait qu'ils avaient un talent énorme, mais on n'arrivait pas à accrocher. Alors que Mbappé, il a vraiment réussi cela, c'est que il n'y a pas de fausse note. Même quand il affirme son caractère, parce que de toute façon, il faut bien qu'il les fasse, sinon il s'est fait complètement. Maintenant, les gens, ils ont compris que c'était les autres joueurs, que c'était quelqu'un dont il fallait se méfier. Donc du coup, même si il a parfois ses sorties des caractères, c'est quelqu'un qui reste très bien. Et ça aussi, on commence à l'apprécier chez nous.
La dernière fois que j'ai vu un joueur qui avait son talent, c'était Ronaldo, pas Cristiano. Hein. le vieux Ronaldo, l'ancien du Brésil. Ses accélérations, ses passements de jambes, son coup de rein, il me rappelle Ronaldo, hein. C'est pas Cristiano. Et pour moi, Ronaldo, l'ancien, est 10 000 fois plus fort dans ce contexte, registre. Dans ce registre. Il est 10 000 fois plus fort que le Ronaldo actuel. C'est un excellent talent. C'est un talent pur.
Voilà, je te trouve un peu dur avec le Ronaldo actuel parce qu'il faut se souvenir quand il était jeune, 19, 20 ans, il faisait des trucs sur un terrain phénoménaux aussi.
Cristiano Ronaldo.
Oh, Cristiano.
Oui, oui mais l'autre Ronaldo, on s'en souvient. Juste après la Coupe du Monde de 94, effectivement. Une petite anecdote parce qu'on parle beaucoup de, on compare beaucoup Kylian Mbappé à d'autres grands joueurs et vous le savez beaucoup appelés. Eh bien, en 1981, c'était même le 19 mai, le roi Pelé s'était rendu à Bondy. Alors évidemment, notre Kylian, qui est né bien plus tard, n'était pas encore là. Mais il était venu tout près du stade Léo Lagrange. Alors c'est marrant, c'était pour l'inauguration d'un magasin de sport à l'époque. Thierry Roland était là pour animer la fête au micro. Il y avait 1500 personnes. Aujourd'hui, il y en avait 9000, comme quoi finalement, il y a plus d'habitants peut-être.
Alors comme quoi,
aussi.
Il est plus important que Pelé. Hein,
mais il avait... pendant quatre... voilà, la déduction logique d'Hervé. Pendant 90 minutes, lui, il avait dédicacé. Alors c'était pas encore l'époque des selfies, donc des ballons, des t-shirts... et tout ça. Et il y a une grande pancarte. On se souvient de cet immeuble décoré à Marseille pendant si longtemps au moment de, après 98.
Zizou.
En l'honneur de Zizou. Et bien, dans le quartier de Bondy, il y a une photo comme ça sur un immeuble. Et c'est assez marrant parce qu'il est écrit 98 a été une grande année pour le football français. Kylian est né. Ah. Comme quoi, les parallèles.
Mais quand vous arrivez de l'autoroute et vous voyez le portrait de Kylian Mbappé, c'est impressionnant.
Ouais, gigantesque. Ouais. Ouais. Gigantesque.
Alors, hier, il y avait la France, il y avait l'Allemagne. On pourrait s'arrêter quelques instants quand même sur cette Allemagne qui a bien failli s'imposer hier, équipe alignée par Joachim Löw. Elle a surpris peut-être les Bleus, hein, ils l'ont dit à votre micro Antoine, et Antoine Griezmann notamment le disait, mais Deschamps aussi sur cette défense à trois qui les a un peu énervés même. Pourtant, il y avait une nouvelle composition, et ce qu'on a vu, c'est qu'il a composé, entre guillemets, avec les critiques Joachim Löw. Il n'y avait plus que trois champions du monde sur la piste de départ.
Oui, ça fait partie des débats actuellement en Allemagne. Que faire des champions du monde de 2014 qui, pour certains, sont en fin de carrière, ont dépassé la trentaine et ne sont plus forcément aussi efficaces qu'ils avaient pu l'être, notamment Thomas Müller. On a vu hier que Mats Hummels, alors, il commet pas de faute sur Blaise Matuidi, mais mine de rien, c'est lui qui
provoque le
penalty. Bref, les mondialistes, c'est un vrai débat en Allemagne. Et hier, Joachim Löw, il avait surtout tranché dans le vide par rapport au match précédent contre les Pays-Bas où il avait effectué 5 changements et il avait aussi décidé d'aligner, vous le disiez, une défense à 3 avec Ginter, Süle et Hummels pour essayer d'endiguer un peu les vagues françaises. Ça a failli marcher d'ailleurs, c'était plutôt intéressant comme pari tactique et ça a marché jusqu'à ce que Deschamps, lui, répondent également avec un changement qui a permis aux Français d'être bien plus performants.
Est-ce que ça veut dire que Joachim Löw, il est en train de trouver la solution, c'est-à-dire la transition et installer les jeunes, selon vous, Cindy?
Je pense que oui. De toute façon, il fallait bien, au bout d'un moment, qu'il s'est réveillé.
Mais il a mis du temps, parce qu'en Russie, non. Les derniers matchs, au dernier match, il y avait encore 5 champions du monde, donc il les élimine peu à peu.
En tout cas, il dit être par rapport à ses convictions, prendre ces décisions-là. Et ce qui est sûr, c'est que cette fois-là, il a fait jouer 7 joueurs, donc la plupart ont moins des 27 ans, en fait, en tant que titulaire. Donc on voit bien que même s'il est très attaché au cadre, ça peut se comprendre dans le sens où ce sont des champions 2014, ce sont même en l'équipe de France, nous avons également des cadres. Au bout d'un moment, il a fallu faire un changement. On peut pas continuer à faire confiance, surtout face à une équipe comme l'équipe française qui a énormément d'accélération face à des personnes, à des joueurs qui peuvent être un peu plus calmes.
Yoro, il s'est racheté un peu de répit, Joachim Löw, après la composition hier.
Oui et non. Oui, parce que quand même sur 90 minutes, ils ont joué 45 voire 50 bonnes minutes. Mais après, c'est le problème de la relève en Allemagne. Ils n'ont pas de bons joueurs actuellement.
Pas de bons buteurs.
Oui, exactement. Et puis, ça a été la force de la Mannschaft. Que ce soit dans les années 70, 80, les Gary Lineker, Alofs, même récemment Klose ou Mario Gomez, c'est des joueurs qui ont marqué plus de 40, 50 buts en sélection. C'est des joueurs qui marquent en championnat aujourd'hui. ou que ce soit Oud qui était là titulaire face comment ça s'appelle aux Hollandais, ou hier le jeune qu'on a mis Werner ou Gnabry. Gnabry qui se souvient de son passage à Arsenal, personne, à part les furieux du ballon comme vous et moi, personne ne se souvient de son passage à Arsenal. C'est pas lui qui fera gagner l'Allemagne, ils n'ont pas de joueurs aujourd'hui. Gnabry, s'il était français, je pense pas qu'il serait dans les 23 bleus. Aujourd'hui, le meilleur joueur...
Sané n'a toujours pas marqué, en plus, sous le maillot de l'Allemagne.
Exactement. Sané n'est pas titulaire à City. Ils ont un problème de relève. Et ça, il faut qu'ils acceptent cette traversée de désert qui est arrivée à toutes les autres sélections.
Antoine?
Ils ont un problème de relève. Ils ont pas un problème réellement de talent, parce que Timo Werner,
C'est deux buts cette saison.
Ça reste 9 buts en sélection allemande. C'est quand même pas forcément anodin pour un joueur qui a 25 ans. Le Roi Sané, sur ce qu'il a montré en qualité de vitesse, en qualité de percussion, ils avaient de la place pour prendre les côtés, ils l'ont prise. Gnabry, sa pointe de vitesse, elle est absolument phénoménale. On a été très surpris. On voit Thilo Kehrer qui a joué hier côté droit, qui est extrêmement prometteur. C'est pas vrai de dire que l'Allemagne n'a pas de joueurs. L'Allemagne n'a pas de joueurs qui soient arrivés à un bon degré de performance pour pouvoir faire une grande équipe nationale.
Ils sont surtout des attaquants qui sont des réalistes.
C'est juste un problème de temps, et il va falloir un peu de courage aussi pour réussir à lancer réellement les jeunes, parce que l'exemple de Leroy Sané, il est assez parlant. C'est un joueur auquel Löw jusqu'ici n'a pas vraiment fait confiance. Il a 14 sélections, mais il a finalement assez peu de minutes en équipe nationale.
Alors pas de relève peut-être aussi d'ailleurs pour remplacer Joachim Löw lui-même.
Oui, c'est un vrai souci aussi, mais il faut pas oublier la Coupe des Confédérations, hein. Il avait fait venir une équipe très jeune, il avait montré qu'il y avait quand même un minimum de potentiel. Alors aujourd'hui on parle qu'ils sont pas du niveau de l'équipe de France. Alors, je parle pas sur le match des Pays-Bas évidemment, mais c'était pas la même équipe. C'est vrai qu'il va falloir qu'ils changent des choses, mais c'est très dur quand vous êtes entraîneur, vous avez gagné avec un groupe, et à un moment, il va falloir couper
se
les
détacher.
Têtes. Et ça, c'est très très compliqué. Soit il y arrive.
Ils sont pas les premiers d'ailleurs, malheureusement,
non,
à souffrir de ça.
Mais tous les sélectionneurs.
L'équipe de France après 98, l'équipe d'Espagne après 2010.
Évidemment, et ça fait 12 ans qu'il est à la tête d'une équipe. Et puis au bout d'un moment, le discours s'érode, la motivation est un petit peu moins forte. Alors il va falloir qu'ils changent ça. En sera-t-il capable ou pas? Ça va être son défi.
Mais ces matchs tombent bien pour l'équipe allemande. D'ailleurs, la presse allemande parle comme Bild de la meilleure défaite de l'année, après les avoir dessingués après les matchs des Pays-Bas. Donc je pense que clairement ça lui a rendu service, et maintenant il se trouve optimiste, ils se disent qu'ils vont pouvoir...
Löw n'aurait certainement pas survécu à une lourde défaite contre l'équipe de France.
Ah non, clairement.
Il reste.
Et puis il avait mis Müller sur le banc, et symboliquement énorme. Oui, et ça aussi, ses critiques ont dû se dire, bon, peut-être qu'il comprend le message et qu'on va passer à autre chose. Bah justement, on passe à autre chose. Et oui, la petite musique pour annoncer notre page Afrique. Les mondialistes africains ont rendez-vous de la CAN 2019. Alors, Tunisie, Égypte et puis Sénégal. Alors, je dis ça dans l'ordre de qualification hier soir des matchs, hein. Ils se sont qualifiés à l'issue de cette quatrième journée de matchs éliminatoires. Et les deux autres mondialistes présents en Russie, que sont le Nigeria et le Maroc, sont plutôt bien partis pour être de la fête. Le Nigeria est premier du groupe E, premier devant l'Afrique du Sud, la Libye et les Seychelles, alors que le Maroc, lui, est deuxième, et avec ce fameux groupe du Cameroun, il est devant le Malawi et les Comores. On a beaucoup évoqué les zébus de Madagascar hier. On leur a rendu hommage à ces Baréas qui se sont qualifiés. On va s'arrêter, évidemment, à votre honneur, Yoro, sur les Lions de la Teranga. Ils ont obtenu leur qualification après la victoire au Soudan. Alors, sans de nombreux cadres, on va y revenir. C'est les changements effectués, apparemment, qui ont rendu Alucis, et vous allez l'entendre, très heureux du résultat.
C'est le match le plus difficile que j'ai eu à préparer. Féliciter nos joueurs du boulot qu'ils sont en train de faire dans des conditions difficiles, à se déplacer partout en Afrique, et avoir vraiment cette motivation, à avoir vraiment cet état d'esprit. Vous avez souvent l'habitude de dire coaching gagnant. Moi, je dirais pas que c'est un coaching gagnant, c'est un changement que j'ai fait. Ça a marché parce que c'est la qualité des joueurs. Il n'y a rien qui m'importe. Donc, c'est ça une équipe.
Babacar Fall posait la question à Aliou Cissé. Alors, coaching gagnant,
Bah oui, quand même. Parce qu'il fait rentrer Sidi Sarr, et son premier ballon, c'est tête et but. Voilà, donc coaching gagnant. Bien sûr, félicitations à Aliou Cissé. félicitations aux 23 Lyons qui se sont qualifiés. C'était pas évident sans certains cadres.
Sadio Mané qui est rentré à Liverpool,
mais ils l'ont fait.
Koulibaly aussi, hein, qui a même pas disputé les matchs.
Koulibaly qui n'est pas là, Salif Sané qui n'est pas là. Ils sont, il y a quand même beaucoup d'absents.
Idrissa Gueye
qui s'est blessé lors de l'avant-dernier match à Dakar. Il avait marqué juste avant de se blesser. C'était difficile sur cette pelouse synthétique quand même de ce stade. C'était très dur pour les Lions.
Il y a beaucoup de pelouses, on en parlait hier soir, qui sont compliquées pour les équipes africaines.
C'était quand même très très dur hier. Le ballon n'arrêtait pas de rebondir, surtout pour les techniciens comme Ismaël Sarr. C'était très difficile, mais bon, ils se sont qualifiés. Félicitations à eux. Et puis, on va attendre 2019. C'est dans 6 voire 8 mois. 8 mois exactement.
15 juin.
Oui, exactement, 8 mois. On n'est pas encore sûr que la CAN va se tenir au Cameroun, on attendra. Mais après, je pense que le Sénégal, pour une fois, sera un candidat sérieux pour le titre final.
Bon, il est souvent candidat sérieux quand même
au titre final. C'est vrai, parce que rappelez-vous, quand on est en Guinée équatoriale, Gabon, c'était pareil. Au Gabon, c'était pareil, toujours sérieux, mais il est sérieusement éliminé assez vite. donc il a besoin de montrer beaucoup plus qu'il ne montre. Mais moi, je suis très content pour ce qu'a fait Aliou Cissé, déjà. Parce que là, l'un de ces chevaux de bataille, c'était de dire aux joueurs, les gars, qu'on va aller à l'extérieur, il faut qu'on soit capable de résister. Parce que beaucoup de gens disaient, finalement, à l'extérieur, le Sénégal a du mal, ils ont des difficultés, etc. Aujourd'hui, ils montrent quand même que c'est un groupe qui est solide, qui est prêt à voyager. Il y a à la fois des joueurs qui ont connu le Sénégal, et ça c'est important, hein, contrairement à d'autres pays, je pensais par exemple à l'Algérie. Eux, ils ont connu des matchs au Sénégal. Tu parlais de Sarr, qui a été formé au pays, on parle de Mané, etc. Il y en a un tas. Plus les Européens, j'allais dire entre guillemets, qui sont venus. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui petit à petit prend confiance en lui. Aliou Cissé va prendre confiance aussi en lui en tant qu'entraîneur. Il a vécu une Coupe du Monde sur le banc. C'est un jeune entraîneur, faut pas l'oublier. Qui a des convictions, qui sait où il veut aller. Et pour l'instant, on est obligé de reconnaître que le boulot est fait, et plutôt bien fait, même si j'entends les critiques au Sénégal sur le jeu, sur ça. Mais à un moment, il faut voir aussi dans quelles conditions ça joue. Et je trouve que lui, il arrive quand même à motiver ses joueurs de telle manière à ce qu'il franchisse à peu près tous les obstacles. Donc pour l'instant, le Sénégal, c'est très intéressant. Je n'en ferai pas un favori pour la CAN, parce que pour être favori, il faut avoir déjà fait quelque chose à la CAN les années précédentes, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui du Sénégal.
En tout cas, il y a un travail sur le long terme, et c'est vrai qu'on a l'impression quand même que Aliou Cissé connaît bien ses joueurs et qu'il en tire bien profit.
Oui, et puis c'est une équipe sénégalaise qui a réussi à se remettre d'une énorme déception à la Coupe du Monde. Parce qu'être éliminé au classement des cartons jaunes et arriver à rebondir derrière, à se remettre dans des éliminatoires de CAN, qui c'est jamais forcément simple. Et puis surtout, il faut pas minimiser non plus la qualité de l'adversaire, parce que le Soudan, c'est peut-être pas forcément très connu. Certainement que Franck Simon en parlerait beaucoup mieux que moi, mais ce sont des joueurs extrêmement talentueux qui évoluent dans des clubs qui en général font des bons résultats en Coupe d'Afrique de club. Donc la victoire 1-0, elle est peut-être étriquée, elle arrive peut-être en toute fin de rencontre, mais mine de rien, il fallait aller gagner au Soudan dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Le Sénégal a réussi à le faire, ça veut dire que mentalement, il y a quelque chose, et c'est souvent ce qui a manqué aux Lions.
Et surtout, je pense que le discours du capitaine Cheikhou Kouyaté à la fin de la rencontre en Wolof, ils ont rassemblé tous les joueurs.
J'ai pas compris justement. Ouais,
exactement, je vais expliquer.
Il leur a dit
en substance, écoutez les gars, avec l'union des cœurs, quand on tire tous dans le même sens, on peut avoir des résultats. Il faudrait qu'on arrête de nous chamailler entre nous, il faudrait l'union des cœurs, et il faudrait qu'on prie et qu'on ait cette même appartenance, ce même maillot, et être prêt à mourir pour sa nation. Et je pense que ce discours-là, on ne l'entend pas très souvent parce qu'il y a eu tellement de problèmes dans la tanière, que ce soit avant eux, avec eux et peut-être même après eux, parce que il y a cette histoire de binationaux, il y a cette histoire de clans qui existe dans presque toutes les sélections, et le Sénégal en a souffert pendant des années. Et je pense que ce discours de Cheikhou Kouyaté en Wolof hier après le match, c'était la première fois que j'entende un joueur parler comme ça. Il savait qu'il y avait la caméra derrière et qu'ils en parlent comme ça de manière officielle.
Mais Kouyaté aussi, pour lui c'était important, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a qui a vécu la Coupe du Monde de manière très, très
délicate. Parce qu'il était remplaçant.
Parce qu'il était remplaçant. Et lui, il espérait jouer. Vous avez deux, trois cadres comme ça qui n'ont pas joué durant la Coupe du Monde. Il y a lui, enfin, qui est légèrement rentré. Et Karam Bodge, qui lui est pas rentré du tout.
Qu'on n'appelle plus, d'ailleurs.
Et qu'on n'appelle plus. Et c'est vrai que ça avait créé quelques tensions internes, évidemment, parce que vous avez des proches, proches d'eux, qui disent, mais tiens, pourquoi ils jouent pas? Et puis, au final, il n'y a pas la qualification. Donc, on cherche toujours des raisons quand il n'y a pas une qualification. Et souvent, c'est dans les choix du coach et puis dans les rapports internes à l'équipe. Mais moi, je trouve qu'Aliou Cissé, sur le coup, il est resté droit dans ses bottes depuis le début et je pense que c'est à mettre à son crédit. Alors, je l'avais dit pendant la Coupe du Monde, je pense que il y avait eu un manque de réactivité sur la blessure de Sabali durant le troisième match contre la Colombie. Sur le corner. Avant le corner. C'est-à-dire que Sabali aurait dû, au moment où il sortait, être remplacé. Là. Être remplacé, ce qui fait qu'à un moment, ils auraient peut-être pas joué côté droit, enfin, on va pas refaire l'histoire, etc. Mais ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeune entraîneur. Donc ça, ce genre de choses, ça ne se passera plus dans le futur. Et je trouve qu'il prend bien, il a bien endossé les avis de sélectionneur des Lions d'Ateranga, et ça se passe vraiment plutôt bien aujourd'hui. En dépit, je dis, de quelques critiques, mais qui vont petit à petit s'effacer si ça continue sur cette voie.
Mais on n'a pas grand-chose à reprocher à Aliou Cissé. En match officiel, il n'a eu qu'une seule défaite, c'était face
Absolument.
À la Colombie.
C'est-à-dire,
il a gagné presque tous ses matchs. À défaut de gagner, il fait un match nul. C'est un gars qui est là depuis quoi ? Bientôt 4 ans. Et aucune défaite, une seule face à la Colombie. On n'a pas beaucoup de choses à reprocher à Aliou Cissé. Il fait un excellent travail avec les Lions. Avant lui, on était tout le temps éliminé au premier tour à la Coupe d'Afrique des Nations. Il est revenu en quart de finale. Avant lui, on a fait une Coupe du Monde en 2002. C'était avec Bruno Metsu. Avec lui, on se qualifie à la Coupe du Monde. On se qualifie là, bien avant la fin des éliminatoires pour une prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Même si la fédération a fixé quelques objectifs à l'UCC, c'est-à-dire remporter la CAN en 2019. Mais il a jusqu'à présent atteint tous les objectifs qu'on lui avait
l'élimination fixé. L'élimination lors de la dernière CAN, faut le rappeler quand même aux auditeurs,
c'était
sauf les Sénégalais évidemment qui sont bien sûr au courant, ainsi que les Camerounais, c'est au tir au but contre le futur vainqueur. Et en plus, c'est Sadio Mané qui rate le fameux penalty. Mais Sadio Mané, vous vous rendez compte, c'est l'un des meilleurs joueurs africains, disons le premier ou le deuxième pour suivant les goûts. Mais donc ça peut arriver ce genre de choses, c'est-à-dire que même sur un match comme ça. Alors là, pour le coup, ce qui avait été critiqué à l'époque, c'était le fond de jeu de l'équipe du Sénégal. Mais c'est pas facile de faire jouer non plus cette équipe, parce que c'est une équipe, si vous voulez, qui peut avoir quelques joueurs offensifs de haut niveau, défenseurs costauds, mais il manque parfois la fluidité au milieu de terrain. Maintenant, avec Idrissa Gueye, moi que j'adore, je trouve que c'est un super joueur, et vous avez quelques joueurs qui sont en train d'arriver et qui peuvent être aussi intéressants. Donc petit à petit, c'est une équipe qui a vraiment des armes pour montrer que c'est une équipe qui peut exister sur le continent africain, et ce qu'on attend évidemment avec ces Sénégalais.
Après, il faut quand même rappeler que le Sénégal était archi favori de son groupe de qualification, et que du coup la qualification, c'est simplement
mission accomplie. L'Algérie était hyper favorite, elle va perdre au Bénin.
Non. ce qui est intéressant, Antoine, c'est qu'on n'est pas encore sûr que le Sénégal finisse premier finalement,
parce qu'il reste encore
deux matchs, et Madagascar, mine de rien, lui, eux aussi.
Finir premier ou deuxième, très franchement, ça fait pas une grosse différence.
Non, c'est vrai. Mais il faut bien se rendre compte qu'en Afrique, c'est un truc très particulier, les éliminatoires comme ça, c'est très, très, très compliqué.
Avant, c'était 1 sur 4.
Je suis en train de repenser, je dis, heureusement que ça donne beaucoup de chance à pas mal d'équipes d'être encore qualifiées et d'être encore en course. Je pense au Gabon, je pense même au Togo, Togo de Claude Leroy qui gagne à la dernière seconde alors qu'ils sont à 10 contre 11.
Mais attends, on les a vus sur les réseaux sociaux commémorer cette victoire.
Et Dosevi qui dit, si ça se trouve, maintenant on va aller jusqu'au bout. On sait jamais. Donc il y a encore plein d'incertitudes. Mais ce qui est incroyable, c'est d'être capable d'aller gagner à l'extérieur. C'est jamais facile en Afrique. Demandez aux Marocains. Les Marocains, ils menaient 2-1, ils étaient qualifiés pour la CAN. Et puis finalement, 90e minute, les Comoriens qui égalisent. Donc c'est toujours très compliqué, en dépit, à première vue, des différences de niveau des joueurs individuellement.
Mmh. La dynamique de la Coupe du Monde Euro, pour terminer, est-ce que ça permet à ces équipes d'avoir atteint un meilleur niveau, et finalement on voit qu'elles sont pratiquement toutes qualifiées pour cette CAN?
Parce que ça te permet de se frotter au meilleur, en fait. Quand on est une petite nation de football africaine, on joue contre les meilleurs. On est certes éliminé au premier tour, mais on se dit, si on bat la Pologne ou bien le Nigeria qui dit on a fait jeu égal avec nos adversaires, on a perdu face à l'Argentine sur un coup de dé, etc. Vous vous dites, écoutez, ça vous permet de vous dire que vous avez déjà du talent, et ça vous permet aussi d'essayer de passer un cap. Ça vous permet de passer un cap. C'est ce qu'on...
De hausser son niveau face à certaines équipes.
Et c'est pas facile, comme disait Hervé, de jouer les éliminatoires en Afrique. C'est plus facile pour une équipe africaine de jouer contre une équipe européenne que de jouer contre une équipe africaine. Parce que les terrains, ils sont pas bons, il fait très chaud et c'est un marquage avec des tacles qui n'existent pas souvent dans les terrains occidentaux. C'est très dur en Afrique.
Et les Soudanais, notamment, qui sont quand même des joueurs très, très physiques. Et la blessure d'Idrissa Gueye, on vient d'en témoigner.
Eh bien, c'est la fin de ce Radio Foot International. Merci, Cindy.
Merci.
On n'a pas eu le temps de parler de foot sud-américain, mais il n'y avait pas d'éliminatoire, pas encore. Merci, Antoine, Hervé et Yoro.
Un plaisir.
Merci, merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno était à la réalisation. Et on vous dit, eh bien, évidemment, à demain, même heure, même fréquence. Priorité.